Bonjour chers amis, bienvenue dans Planche, Cases et Bulles, où avec Christole Sehec, qui est, je le rappelle, chroniqueur bande dessinée sur braisinfo.fr. Enfin, est-ce que c'est bien braisinfo.fr?
Eh bien, je ne saurais le dire.
En tout cas, sur Braise Info. Voilà. Et donc, avec un peu. Si c'est pas
Non, ça
.fr,
doit être
ça va être .com. Nous allons vous parler, évidemment, de bande dessinée, avec un programme aujourd'hui varié, comme d'habitude, puisque nous allons parler d'abord d'Auschwitz, ensuite de Thorgal, après d'une équipe de cricket aborigène, et enfin de la navette Challenger. Voilà. On se retrouve avec un programme chargé. Ce sont des bandes dessinées qui, pour trois d'entre elles, sont vraiment des documentaires ou des bandes dessinées historiques. C'est un genre qui est de plus en plus répandu. On vous en parle de plus en plus souvent. Mais c'est parce qu'il y a de véritables succès dans le genre, et là il y a au moins deux bandes dessinées aujourd'hui qui méritent véritablement que vous ouvriez les pages sur l'étal de votre libraire. Christole, si tu permets, on va commencer par ce que j'ai vu à Auschwitz, les cahiers d'Alter, un ouvrage donc publié par Dupuis d'après les mémoires de Roger Van Zylberg et Alban Perrin. Alban Perrin, donc, qui s'occupe du mémorial de la Shoah. Donc c'est un ouvrage qui est tout à fait surprenant, puisque c'est le récit fait par un rescapé des camps de la mort, quelqu'un qui a fait partie des Sonderkommando, autrement dit de ces prisonniers qui étaient chargés en fait d'enfourner les corps dans les fours crématoires et ensuite de disperser les cendres, etc. Donc une histoire évidemment horrible, avec en plus un personnage qui n'est pas particulièrement sympathique en tant que tel, puisqu'il s'agit d'un Polonais communiste ayant participé à la guerre en Espagne contre les troupes franquistes du côté des Républicains. Je me laisse un peu aller sans doute à mes attachements personnels. Mais cette personne donc se retrouve prisonnière, elle est blessée, elle est expulsée en France, elle est internée dans les camps d'internement que la France met en place, qui sont des camps de réfugiés en fait pour tous ces républicains espagnols. La guerre éclate, les républicains espagnols sont... évidemment traité par le gouvernement de Vichy comme n'étant pas forcément particulièrement désirable, et surtout voilà, donc les étrangers, et parmi les étrangers les juifs étrangers sont bien sûr soumis à la règle qui est celle en vigueur en France et dans l'Europe nazie pour ces populations là et voici le Polonais parti pour Auschwitz, donc où il va donc devenir membre de ces Sonderkommando. C'est tout à fait exceptionnel. Les documents sur ces Sonderkommando sont rarissimes. Et l'histoire même de la bande dessinée est intéressante, puisque le fils né après la guerre de ce rescapé du camp d'Auschwitz, qui a épousé d'ailleurs une autre rescapée, c'est leur fils unique, n'entendra jamais ses parents raconter ce qu'ils ont vécu. Il le découvrira bien après, notamment en ouvrant des carnets que son père a rédigés en polonais qu'il a vu toute sa jeunesse, toute son enfance, toute son adolescence dans une boîte qui n'a jamais été ouverte et qui met plusieurs années à ouvrir après la mort de son père. Et donc ces carnets nous racontent justement l'épopée de ce Polonais et la manière dont il a été conduit jusqu'à ces camps. Le dessin est assez remarquable, véritablement. Raphaël Ortiz a fait quelque chose d'à la fois réaliste, sans tomber évidemment dans les détails les plus sordides. Il y a un côté, un ancrage tout à fait spécifique par-dessus lesquels les couleurs de Hiroyuki Ushima et Florian Soussigne réussissent à épaissir en fait cet ancrage tout à fait intéressant avec des couleurs qui ne sont pas sans évoquer d'autres bandes dessinées comme celle d'Emmanuel Guibert par exemple, donc des tonalités un peu sourdes et assez efficaces. On est dans un album évidemment documentaire, donc on sent de temps en temps que, y a un travail photographique qui est à la base du dessin, mais ça reste quelque chose évidemment de passionnant, et en partie passionnant à cause de la manière dont on nous raconte cette histoire à la première personne, de la personnalité, une fois plus, pas forcément immédiatement sympathique du héros de l'histoire, dont on comprend quand même que avoir été communiste dans les années 20-30 en Pologne et issu d'une communauté juive dont il a rejeté la foi, et, évidemment, ça forge le caractère. On ne peut pas dire qu'il a tout de suite beaucoup d'amis. Et d'ailleurs, la bande dessinée est honnête, elle raconte la manière dont les communistes polonais sont persécutés par Staline. Et donc, on a véritablement l'itinéraire de quelqu'un qui a appris très tôt, dès 16 ans, à résister et qui va donc aller au bout de l'horreur. L'ouvrage est assez épais, il fait plus de 100 pages de bande dessinée, avec en plus évidemment un dossier à la fin. On peut considérer que ça fait partie de bonnes bandes dessinées documentaires, car il y a là tout ce qui fait, si j'ose dire, le succès d'une biographie en bande dessinée, c'est-à-dire une histoire forte, un dessin qui sert parfaitement le propos et un scénario qui est très habile. Et ce n'est pas étonnant, c'est le scénario, là aussi, de Morvan, donc qui a été aidé par Victor Maillet. Mathet, pardon, mais Morvan, c'est celui qui est responsable notamment des 4 tomes de Madeleine Résistante, toujours aux éditions Dupuis. On a l'impression qu'il y a une petite niche éditoriale qui est en train de se dessiner avec tous ces récits sur la Seconde Guerre mondiale et ceux qui ont été ou résistants ou déportés mille autres histoires qui sont racontées autour de ces années. Mais l'album vaut le détour, comme on dirait chez le Guide Michelin. Et sans transition, tu vas nous parler de l'album de Torgal.
Alors, merci Richard. Est-ce que je vais dire qu'il faut le détour? Eh bien, malheureusement, non. Torgal, c'est une grande série de la bande dessinée créée il y a un demi-siècle par le scénariste Jean Van Ham, dessinateur Gorks Rosinski. Bon, c'est un immense succès. Ils doivent avoir vendu jusqu'ici 20 millions d'albums. L'histoire est connue par ceux qui aiment la bande dessinée. Hein. C'est l'histoire d'un enfant qui est retrouvé dans un berceau par un chef viking au 7e siècle après Jésus-Christ. Et cet enfant, dénommé Thorgal, va devenir un héros, d'autant qu'il a des pouvoirs mystérieux qu'on découvrira au fil des albums, puisqu'il est issu du peuple des Atlantes. Donc c'est une série mi-historique, mais plutôt fantastique, puisqu'interviennent dans ce récit les dieux nordiques. Précisément, dans cet album apparaît une déesse nordique. Alors, il faut savoir qu'avec le succès de cette série, l'éditeur a eu l'idée d'ajouter plein de séries parallèles, dont l'une d'elles s'appelle Thorgal Saga. C'était une bonne idée puisqu'il s'agissait de demander à un duo de scénaristes et de dessinateurs d'imaginer et de dessiner, avec leur style, un récit en dehors de la trame de la série classique Thorgal. Le premier tome de Thorgal Saga, consacré à la mort d'Aricia, l'épouse de Thorgal, était très bienvenue, puisqu'on ne verra jamais dans cette série cet épisode dramatique, et ça valait le coup, franchement, de le lire. Les tomes successifs étaient assez décevants. Je me suis intéressé au dernier, puisque le dessinateur est Christophe Beck, qui est doué, hein, Christophe Beck. Il est connu pour être scénariste et dessinateur. Pour ainsi dire, il avait dessiné dans les années 2000 une BD fantastique Sanctuaire, pour ceux qui s'en souviennent, avec un scénario de Xavier Dorisson. Puis dans les années 2010, il avait créé le scénario de Cartajo, une BD encore fantastique qui se passe au fond des mers. Donc c'était plaisant à lire et je me disais, tiens, que va-t-il faire de Thorgal, d'autant qu'il est, je l'ai dit, scénariste et dessinateur. Malheureusement, Christophe Beck a demandé l'aide d'une autre scénariste qui s'appelle Valérie Mangin, dont on a déjà dû parler dans l'émission. Alors Valérie Mangin, elle fait des scénarios qui se tiennent, mais qui ont le défaut d'être souvent très politisés, et très politisés, il faut le dire, plutôt à gauche. Dans sa jeunesse, elle avait dressé le récit d'une Jeanne d'Arc qui était une sorcière féministe. L'année d'après, le récit dans l'espace d'un mouvement d'extrême droite qui voulait éradiquer les espèces différentes. Bon, Il fallait oser. Et là, heureusement, la touche idéologique a été assez limitée, même inexistante. Mais le défaut, c'est que, comme les autres tomes d'album de Tangle Saga, si ce n'est le premier, on a l'impression que ce sont des albums de la série classique qui racontent une histoire de Tangle, laquelle s'insère dans deux albums de la série classique. C'est tout simplement un album qui, au lieu de faire 48 pages, fait 112 pages.
Ouf.
Et donc, on se lasse de nouveau de découvrir des aventures de Tangle qui sortent de l'ordinaire véritablement. Là, dans ce récit-là, Tangle, pour sauver sa famille, notamment son fils qui est tombé dans le sommeil à cause d'un pendentif en ambre, va rechercher la jeune femme qui a offert ce pendentif et la déesse qui se cache derrière, qui protège l'ambre parce que les humains veulent détruire sa montagne pour récupérer l'ambre. Une histoire un peu étrange. Heureusement, il y a le dessin de Christophe Beck qui est doué et hein, retrouve vraiment sa patte habituelle. De grandes cases panoramiques, de doubles pages spectaculaires. Pour le dessin, on en prend plein les yeux, mais pour le scénario, on n'en prend pas beaucoup les neurones, je pourrais dire.
Excellente
Je ne
formule.
sais pas si tu l'as lu, mais je crois que tu n'aimes pas trop Tangal,
Non,
Richard.
et en fait, voilà, autant je trouve que tout ce que tu dis sur Rosinski et donc le dessin de Rosinski est tout à fait juste, autant ça fait partie de ces séries d'Heroic Fantasy où, à un moment donné, je suis, comment dire, un peu en décalage avec l'univers. En partie d'ailleurs. Au moment où le fantastique en fait prend véritablement le pas sur l'exploration de ce que c'est qu'être un soldat qui essaye de fonder une famille et d'échapper à la violence qui malgré tout est son métier, ce qui est hyper classique comme scénario, en tout cas comme toile de fond, et qui permet généralement de bonnes variations. Il y a un album qui vient de paraître chez Daniel Magen qui est exactement sur ce thème-là, avec là aussi d'ailleurs l'idée d'un univers différent. Différent sur une autre planète, on sent il y a un petit ronronnement. En revanche, tu as parfaitement raison sur le dessin de Beck. Il y a en ce moment une exposition à Paris, si je ne m'abuse, qui permet de vérifier que les dessins et donc que les planches, les cases et surtout c'est évidemment ces grandes planches que tu soulignais tout à l'heure sont effectivement superbes avec un sens très sûr de la mise en scène, un côté architectural remarquable. Ça ressemble à du Druyer mais assagi. On est à mi-chemin entre comment dire, le dessinateur de l'Incal, Moebius, et Druyer, et avec à l'arrivée, voilà, quelque chose de plaisamment spectaculaire, une espèce d'inspiration très 19e d'une certaine manière.
D'autant que Beck, qui a à peu près notre âge, a commencé à travailler au crayon.
C'est très
À
gentil.
l'époque, il n'y avait pas les tablettes numériques. Et il continue au feutre. Il ne s'est jamais laissé divertir par la tablette numérique. Et donc, ça fait un dessin qui est quand même très, très agréable à regarder. Ouais.
Voilà, eh bien, hommage à Beck. On va en profiter, à défaut de rendre hommage à Beck, pour faire un appel aux dons. Chers auditeurs, vous savez que voilà, nous ne vivons que de vos dons. Comme je le dis depuis quelques semaines, c'est-à-dire depuis quelques jours, depuis qu'on a les résultats, nous sommes plus d'un million à faire partie de la famille de Radio Courtoisie. Voilà, vous êtes un million à nous écouter chaque semaine, depuis les 65 000 qui nous écoutent tous les jours, plusieurs heures, et qui vivent avec nous, merci beaucoup, jusqu'à ceux qui nous écoutent plus épisodiquement. Mais merci beaucoup, merci de faire partie aussi, peut-être, des milliers qui nous donnent. Et ben, voilà, à ceux qui ne donnent pas encore, eh bien, pourquoi pas faire partie, justement, des milliers qui vont donner et qui permettront donc à cette radio d'exister, de produire ces émissions et toutes les autres émissions que vous aimez, comme par exemple tout ce que Payen Appenzeller nous raconte sur la poésie contemporaine, la poésie française, et d'ailleurs, et pas que la poésie contemporaine, et qui est évidemment quelque chose que vous n'avez pas ailleurs. Voilà, dans Radio Courtoisie, c'est quand même le France Culture de droite. Eh bien, nous en sommes très fiers. N'hésitez pas, voilà, faites partie de ceux qui donnent. On va, juste après ce plaidoyer vibrant en faveur d'une radio participative et donc inclusive, passons à un scénariste vraiment intéressant qui s'appelle Laurent-Frédéric Bollé. Et on va commencer par une de ces bandes dessinées incroyables que tu vas dénicher et qui est l'histoire d'une équipe de cricket. Et donc Laurent-Frédéric Bollé va réussir à nous passionner pour ce sport anglissime.
C'est exact. Lorsque j'ai découvert l'idée de cette bande dessinée, c'est-à-dire le parcours d'une équipe de cricket composée d'aborigènes qui va disputer des matchs prestigieux en Angleterre, j'ai craint, avant de commencer la lecture, que ce soit un scénario pétri d'antiracisme, dénonçant l'exploitation des aborigènes par l'anglais, qui aurait pu être bien ficelé, mais quand même assez récurrent dans le thème. Alors qu'en fin de compte, si ces thèmes-là sont indiqués, mais vraiment en toile de fond, ce qui m'a vraiment intéressé, ce sont les thèmes que je trouve mis en avant, qui est plutôt celui de l'enracinement, de l'identité des aborigènes. Comment va-t-elle rentrer en contact avec l'identité anglaise? Et notamment, on découvre le drame, si je puis dire, de l'immigration, puisque les aborigènes au contact de l'Angleterre vont être complètement déphasés. Et je vais détailler après pourquoi. Et il y a aussi une autre thématique très intéressante, c'est la découverte par l'aborigène de la religion catholique. Et ça devrait venir de fervents chrétiens qui font leur prière à Jésus matin, midi et soir, sans que le scénariste, à mes yeux, apporte la moindre critique à leur évolution religieuse, ce qui est quand même pas très courant dans le monde de la bande dessinée. Donc, pour dresser le tableau, nous sommes en 1864 en Australie. On imagine qu'on est dans un élevage de moutons, travail des aborigènes, qui côtoient des colons anglais. Et pendant les pauses, ou alors après la journée de travail, les colons anglais font une partie de cricket. Les aborigènes les regardent avec amusement. Ils trouvent ça drôlatique de courir ainsi sur un stade sans raison. Et puis, comme ça, pour s'amuser, les Anglais les invitent à faire une partie. Pour les aborigènes, la découverte, la compréhension des règles du cricket, qui sont quand même assez complexes pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la première difficulté. Mais assez rapidement, ils comprennent les règles, ils s'en imprègnent et leur puissance physique, leur agilité technique extraordinaire leur permet très rapidement de composer une équipe particulièrement redoutable. C'est si vrai que des investisseurs australiens décident de les envoyer à travers les océans jusqu'en Angleterre pour affronter les meilleures équipes du pays. Certes, il y aura des défaites, des matchs nuls, mais aussi des victoires. Ils vont apprendre à se battre, à perdre, à gagner. Et chacun des aborigènes aura un surnom. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que l'anglais, certains entrepreneurs sportifs avec une certaine perfidie, il faut bien le dire, pour remplir les stades, demandent aux aborigènes de faire des exercices sportifs périlleux, de lancer des boomerangs, ce qui amuse les foules, le tout pour faire venir le monde et qu'il y ait plus d'entrées et se faire plus d'argent. Bon, à côté de ça, ce qui est très intéressant, c'est petit à petit une certaine dépression dans laquelle vont tomber des aborigènes d'être loin de leur terre natale. Ils découvrent l'alcool, certains s'y perdent, ils souffrent du climat. Seul leur entraîneur les traite toujours avec respect. Et ce qui leur apporte un peu de réconfort, c'est la religion catholique. Ils retourneront en Australie. Là-bas, on aura oublié leurs exploits. Mais on se dit, le déracinement, ça fait souvent quand même des dégâts et des ravages. C'est un peu ma compréhension du scénario. Je ne sais pas si tu as lu cette BD, Richard.
Non, mais ça m'a donné très envie lorsque tu me l'as proposé, parce que voilà, je suis tout de suite allé sur le site de l'éditeur Pictaviva, si je ne m'abuse, qui est le nouveau nom de la chambre à bulles, et
La boîte à bulles,
de
ouais.
la boîte à bulles, pardon, et on est On est saisi. Et puis surtout, j'étais, comment dire, sous le charme du précédent album de Bolé que j'avais lu et dont je vais parler dans un instant, et encore plus sous le charme de La Bombe, donc cette grosse bande dessinée documentaire consacrée à la mise au point de la bombe atomique américaine qui a fini par exploser à Hiroshima et à Nagasaki, et qui était un travail vraiment de journalisme remarquable. Avec
Un tout petit mot pour dire que le dessin de cette bande dessinée est de Paul Gros, que je ne connaissais pas. C'est pas la ligne claire, c'est un dessin surréaliste, mais il dessine assez vite puisqu'il a pu enfin, écrire un album de 132 pages. Donc on peut le lire en 2-3 soirées, un dessin qui est très agréable. Vraiment, je pense que ça vaut le coup de l'acheter, cet album aux éditions Picta Vita, pour lancer cette nouvelle maison d'édition prometteuse dans le monde de la bande dessinée.
Voilà, donc nous sommes enthousiastes et nous sommes encore plus enthousiastes. Et d'ailleurs, merci Christol de m'avoir laissé le fait de pouvoir en parler, puisqu'on était deux à se déchirer, le mot est à peine trop fort, de parler de l'autre bande dessinée de Laurent-Frédéric Bollé qui paraît ces jours-ci, dessinée ce coup-ci par Cristiano Spadoni, Le visage du créateur, et qui est une grosse bande dessinée documentaire, là aussi, de 260 pages à peu près, sur la navette. Challenger, si je ne m'abuse, qui est la navette qui a explosé en plein vol le 28 janvier 1986. En 250 pages, on nous raconte la genèse de ce programme, le recrutement des astronautes, dont les deux astronautes civils qui font partie du vol, dont parmi ces deux astronautes, une institutrice qui est la chouchou des médias, voilà, mariée, mère de famille, professeure dans un lycée de l'Amérique profonde, absolument passionnée par la conquête spatiale. On est en 1986 et à peine quelques années après l'arrêt des vols Apollo qui avaient mené sur la Lune en 1986. Tous ceux d'ailleurs qui ont posé le pied sur la Lune sont encore vivants. La navette en est à son 22e, 23e, 24e vol. Ce sera le 25e vol de la navette. Il y a un appétit incroyable de découverte. Il y a aussi l'affirmation en fait d'une puissance technologique incroyable. Et 4 janvier 86, la navette explose. Le monde est absolument saisi. Tout le monde, évidemment, se penchera sur la manière dont cet accident a pu survenir. On se rend compte que c'est un problème de conception technique. On se rend compte aussi que c'est un problème de gestion, c'est-à-dire que la NASA tenait absolument à ce que la navette s'envole pour des raisons évidemment politiques. On se rendra compte qu'il y avait eu des alertes faites par les concepteurs de la partie qui a failli. Un livre d'ailleurs absolument remarquable que je conseille à tout le monde, qui s'appelle Les décisions absurdes, a été écrit. Il est publié en folio. Penchez-vous dessus, il y a un chapitre entier qui est consacré à la manière dont la navette a explosé, malgré toutes les alertes qui ont été données. Et il décortique tous les processus que les managers ont mis en place pour éviter l'accident survienne, et il décortique la manière dont chaque processus a été évidemment méprisé, oublié, contourné par ceux qui avaient d'autres objectifs. Et il montre bien comment est-ce qu'on en arrive à prendre une décision totalement absurde. L'album est dessiné dans un noir blanc gris tout à fait agréable. On prend en main chaque personnage, on avance dans un récit qui en fait est un récit de conquête spatiale et un récit tout à fait aimable. Il y avait de temps en temps ces petits encarts qui nous disent 3 mois et 27 jours avant la désintégration, 1 mois et 15 jours avant la désintégration. Et donc, au fur et à mesure que on est en train d'avancer vers ce lancement qui est censé être un triomphe, on sait qu'en fait que c'est un compte à rebours absolument terrible qui est en train de d'être raconté sous nos yeux. Je crois que c'est la meilleure définition du suspense. En fait, on sait très bien que ça se termine mal, mais donc c'est pas du tout la fin qui est importante. Au contraire, la fin, d'une certaine manière, colore d'une manière sinistre et rétroactive tout ce qui la précède. Et c'est le simple fait de voir une banlieue américaine au soleil et quelqu'un en train de boire un jus d'orange dans sa cuisine a une résonance dramatique incroyable parce qu'on sait déjà comment ça se finit. C'est vraiment la tragédie grecque dans toute sa splendeur. Et vraiment, le travail là aussi de scénariste de Bollé est très fin. Il réussit à rentrer dans cette manière de raconter une histoire américaine, c'est-à-dire en faisant en sorte que ce ne soit pas juste l'histoire, mais aussi bien sûr tous les personnages de l'histoire qui soient mis en avant. On y croise d'ailleurs le lieutenant Uhura de Star Trek, autrement dit l'actrice noire qui joue dans Star Trek, une actrice noire qui est légale en tant que femme et en tant que noire du reste de l'équipage, qui est blanc mais qui est aussi d'ailleurs est russe. Donc Roddenberry projetait déjà ses utopies de paix universelle dans cette série. Et ça commence d'ailleurs quasiment par une scène où on voit le lieutenant Uhura rendre visite à Martin Luther King et qui lui dit qu'il faut absolument qu'elle reste dans le programme Star Trek. Et d'ailleurs, c'est parce qu'elle fait partie de cette série Star Trek que la NASA vient la chercher comme étant une ambassadrice pour recruter des personnes, et elle fera partie de celles qui recrutent justement la jeune femme professeure de lycée qui finira dans l'espace et qui finira hélas par mourir. Voilà, franchement, c'est une bande dessinée remarquable. Je la conseille à tout le monde. Là, c'est compliqué de la feuilleter sur un étal parce qu'avec 250 pages, vous n'allez pas pouvoir vous en faire une bonne idée, mais achetez-la les yeux fermés, et ensuite ouvrez-la tout grand. Eh bien, je crois que nous sommes arrivés quasiment au bout des 26 minutes qui nous sont imparties. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Christole d'avoir supporté mes 6 minutes de lancée spatiale sur la navette Challenger et son explosion. Et à très bientôt, chers amis, à samedi prochain pour un nouvel épisode de Planche Casse-Zébule.